Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut les fous du volant! Aujourd'hui, on a un invité exceptionnel, un garçon qui a piloté en Formule 1 chez Toro Rosso, en l'occurrence, qui a, avant cela, été sacré 4 fois en Champ Car, l'équivalent de l'IndyCar, qui a terminé 3 fois deuxième aux 24 heures du Mans. C'est évidemment Sébastien Bourdais qui est en visite dans les fous du volant aujourd'hui. Bonjour Sébastien!
Salut tout le monde!
On est absolument ravis, Seb, de te recevoir. Je te présente Julien Pereira, qui écrit tout ce qui est sport mécanique sur le site eurosport.fr, qui écrit aussi beaucoup sur le MotoGP. Et on va en parler de la MotoGP de manière assez exceptionnelle dans les fous du volant, parce que les deux pourraient se croiser, Julien.
Tout à fait, c'est l'une des petites rumeurs, c'est même pas une rumeur, puisque c'est Carmelo Ezpeleta qu'on en parlait, qui circule depuis quelques jours, c'est dans les cartons.
Exactement, un super Grand Prix. Est-ce qu'on peut faire un Grand Prix commun F1 MotoGP? On en parlera ensemble. Autre petite chose qui est sortie comme ça, au début un peu comme une boutade, et puis qui finit par d'un seul coup devenir un vrai sujet, Lewis Hamilton chez Ferrari. Est-ce que c'est jouable? Alors là, pas en MotoGP, hein, en Formule 1 évidemment. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est grotesque et à oublier? Eh bien, on en parlera encore aussi aujourd'hui dans Les Fous du Volant. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. Vous pouvez nous donner 5 étoiles et puis aussi vous abonner. Et de cette manière-là, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc en compagnie de Sébastien Bourdais, invité exceptionnel des Fous du Volant. Je le dis, je le répète, Sébastien, on est ravis de te recevoir. 27 départs en Formule 1 pour toi, en Formule 1. 3 fois deuxième aux 24 heures du Mans, quadruple champion du Champ Car, qui était donc l'équivalent de l'IndyCar aujourd'hui, champion de F3000 aussi, un incroyable palmarès. Je me permets même d'en laisser quelques-uns de tes succès en route. S'il y a un souvenir à garder de ton incroyable carrière, qui n'est pas terminée, hein, je tiens à le préciser, ça serait quoi le moment le plus fort de ta carrière, Sébastien?
Ouais, je pense que malgré tout, les années de Champ Car restent les plus fortes. Il y a des super souvenirs. On avait un groupe exceptionnel avec la meilleure équipe du championnat à ce moment-là. Donc, je crois qu'on a gagné 31 courses sur 73 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas anecdotique, quoi. C'était vraiment une époque très, très, très spéciale.
Une domination presque à la Verstappen. Je rebondis un petit peu sur ce que tu nous dis, parce qu'on aimerait bien avoir ton regard. On va aussi parler de Formule 1, mais là finalement on est déjà dans le vif du sujet. C'est quoi ton regard sur la Formule 1 actuelle et notamment sur le double champion du monde?
Je crois que la F1, en tout cas nous, notre perspective aux US, elle a extrêmement rapidement évolué. Je dirais que depuis la série sur Netflix, on a eu une croissance assez incroyable et un intérêt aux US qui a été assez remarquable par rapport à la confidentialité dans laquelle était la F1 il y a encore pas très très longtemps, parce que autant dans le reste du monde, la F1 c'est quand même la référence, aux US c'est tout nouveau. Donc ça c'est quand même assez impressionnant ce qu'a réussi à faire Liberty et tout le groupe autour avec la com et leur connaissance du marché américain. Parce que c'était quand même pas gagné d'avance. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que les promoteurs différents essayent de faire décoller la F1 aux US et personne n'y est arrivé jusqu'à Liberty, au point d'avoir 3 grands prix de F1 aux US. C'est quand même assez incroyable. Hein. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est un peu l'aspect commercial, l'aspect sportif. Je dirais qu'on a quand même vu un resserrement des perfos, bon, même si on a quand même un petit peu de mal à, à sortir Red Bull, enfin à garder Red Bull dans le pack de devant, parce qu'ils ont quand même l'air vraiment en contrôle et surtout en version course. Autant sur un tour peut-être qu'ils sont prenables, mais sur une version course, j'ai l'impression qu'ils sont quand même vraiment au-dessus. Et puis par contre, le paquet qui suit tous les week-ends, on a chaque équipe qui sont vraiment dans un mouchoir et qui semblent être capables de tout, je dirais, se battre à coup de dixième. Donc ça, c'est assez cool. Il y a plusieurs choses que moi j'aime bien. J'aime surtout ce que j'entends, le retour un peu des pistes qui se polissent toutes seules, où on a peu des limites sans se retrouver sur des grands boulevards avec des bandes blanches et on parle de track limit en permanence. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. On commence à reparler de ça et à réintroduire des bacs et de l'herbe et des limites naturelles. Sinon, le spectacle, il est plutôt sympa. J'avoue que perso, j'aimerais bien quand même qu'il trouve autre chose que le DRS pour favoriser les dépassements, que ce soit quelque chose type boost, push to pass et autres.
Ça, c'est un artifice qui avait. Je me permets de t'interrompre. Le push to pass, c'était ce qu'il y avait sur. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a toujours Oui, il y en a toujours.
Oui, il y en a toujours en IndyCar. Il y en a sur le système de développement aussi en Indy Lights. Enfin, maintenant qu'il y a NXT, je crois. Qui est la dernière étape avant l'IndyCar, et je trouve ça plus intéressant parce qu'il y a un aspect stratégique aussi. Il y en a pas à volonté, il y en a un certain nombre. Ça permettrait peut-être de rendre un peu les dépassements peut-être plus naturels, plus sportifs, où on voit le DRS, où vraiment on voit même plus vraiment de dépassement par moment, on voit juste des voitures qui fusent par à côté d'autres voitures. Je sais pas, j'ai toujours été partagé par rapport à ça. C'est bien parce que ça permet de pas bloquer une voiture derrière une autre et de rouvrir un peu les stratégies et la course. D'un autre côté, ce serait bien que ce soit des réels dépassements, quoi, pas aussi artificiels quelque part. Mais c'est un débat qui est un peu compliqué. Mais peut-être revoir la stratégie de déploiement.
Tu parlais justement de superficialité. Ça a également été le sujet du dernier Grand Prix en Australie. Toi qui es quand même attaché à la F1 traditionnelle, entre guillemets, mais qui a l'œil américain, qu'est-ce que tu penses de ces fins de course, de ces scénarios qu'on a vus notamment à Melbourne, avec des drapeaux rouges et des voitures sécurité à répétition?
Je pense qu'on a quand même un besoin aujourd'hui dans le sport auto de protéger les commissaires et de faire en sorte qu'on n'ait pas de fatalité, vraiment pas nécessaire, même si jamais une nécessité, mais... qui peuvent être évités en tout cas. Donc, je pense que c'est une bonne chose de faire vraiment attention à ce qu'on fait et quand il y a des scénarios où vraiment on est un peu limite, à la limite de sortir un drapeau rouge, pourquoi pas. Par contre, je pense vraiment que ça devient un gros débat et quelque part une grosse erreur de refaire des départs arrêtés à chaque fois. Je pense que ce serait mieux à ce moment-là de faire un restart type safety car. On relance tout le monde de la pit lane, on se met en fin indienne et le tour d'après, on faire une relance comme un restart, hein. chacun en ligne, parce que au bout d'un moment, de perdre une, deux, trois voitures à chaque drapeau rouge, où on prend de nouveau le risque d'avoir un autre drapeau rouge, je pense que ça finit par vraiment faire du mal au sport, quoi. Donc, et en plus de tout, ça coûte cher, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que on prend l'exemple d'Alpine, le dernier tour, là, bonbon quand même, surtout quand on est dans un cascap et autres, ça peut quand même avoir des grosses conséquences, quoi. Donc, je pense que si c'était possible de repenser un peu le système et juste de faire un petit changement sur les relances de drapeau rouge, je pense que ce serait pas mal. Parce qu'en plus de tout, il suffit qu'il se passe quelque chose sur la procédure de départ ou quoi que ce soit, le week-end est ralenti comme ça, quoi.
Ouais. Donc,
je pense, enfin, moi perso, j'aimerais bien revoir. Des sorties de drapeau rouge ou relance type safety car plutôt que de refaire
que départ arrêté. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles aussi de ton passage donc sur la Formule 1 à l'époque chez Toro Rosso, une première saison avec Sébastien Vettel, une deuxième un petit peu écourtée aux côtés de Sébastien Buemi. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Finalement, un bon souvenir ou ou des temps difficiles parce que ça a été compliqué.
Oh, pff, bon, c'est un long sujet, mais non, c'était un gros désastre. Pendant toute ma carrière, forcément, tu chasses le rêve d'accéder à la Formule 1, et un jour, ça s'est réalisé, j'ai compris que ça a été une catastrophe absolue, parce que j'ai des qualités, mais ça n'a jamais été de monter dans n'importe quelle voiture et d'en sortir 100%. J'ai un style de pilotage qui est assez particulier et qui demande un certain nombre de choses sur une auto, et malheureusement, les F1 modernes, et maintenant, ça fait quand même, ouais, je dirais bientôt, que ça dure peut-être un petit peu plus, où le niveau d'ajustabilité de la voiture est extrêmement limité, l'aéro prime par-dessus tout, et les évos, en fait, elles arrivent sur les voitures, qu'elles changent le comportement ou pas, parce que si tu ne trouves pas de la perfo, tu vas en marche arrière dans la grille, et donc, c'était une période, la pire année et demie de ma carrière.
Ouais.
Et ça a même démarré avant ça, parce qu'en fait, quand ils m'ont signé, je leur avais dit très clairement, écoutez, si vous pensez que j'ai fait du bon boulot, qu'on avait fait ces 3 jours d'essai à Jerez à la naissance de ma fille, à la fin de 2006, c'est bien, mais croyez pas que je vais être capable de faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait là, parce que je vais rouler plus. C'est pas une voiture qui me convient. Maintenant, si vous avez besoin de mon expérience et qu'on développe l'auto, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, et là, je suis all-in, quoi. Et à ce moment-là, la réponse avait été, ouais, super, t'as de l'expérience, tu sais ce que tu veux, tu sais de quoi t'as besoin, et nous, on a besoin d'un leader. Bon, bah, ok, bon, on y va. Sauf que quand je suis arrivé, en fait, fin 2007, en gros, la voiture, c'était la voiture. Red Bull Technology faisait la voiture pour Racing et pour Toro. Nous, on avait un Ferrari, vous avez un Renault, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Et la voiture, c'était l'auto. C'est-à-dire que ça s'ouvrirait dans les rapides, ça survirait dans les serrés. C'est un petit problème, quoi. Donc, malheureusement, ouais, ça a été extrêmement difficile. En plus de tout, bah, forcément, tu te retrouves avec des pilotes extrêmement rapides et de bonne qualité. Et donc, ça a été extrêmement compliqué à partir du moment où la auto est arrivée, parce que l'ancienne, il y avait un petit peu plus d'ajustabilité, pour faire simple, il y avait moyen de changer le comportement, il y avait plus d'éléments, et puis d'un seul coup, l'auto est arrivée, il n'y avait pas anti-roulis à l'arrière, un ressort central, un amorto, et voilà, quoi, et tu ne pouvais rien faire. La voiture, elle perdait 6 ou 8% de centrale de roue, entre 80 km/h et 250, fallait juste s'en accommoder, quoi. Et Vettel était bien, bien meilleur que moi à ce petit jeu-là. Et, au fur et à mesure des évolutions, on m'a vu ressortir la tête de l'eau de temps en temps, un coup au Japon, un coup à Spa, un coup par-ci, un coup par-là. Mais globalement, c'était un enfer. Et c'était encore bien pire contre Sébastien Bonny, qui est, je pense, a au moins lui autant de talent que.
Faut dire que t'as quand même pas eu de chance. T'es tombé sur Sébastien Vettel et sur Sébastien Buemi. T'aurais pu tomber sur Lance Stroll, mon coéquipier.
Ouais, mais très franchement, j'irais, ça peu importe. Quand t'arrives en F1, tu vas forcément te retrouver avec des coéquipiers de qualité qui sont extrêmement rapides. Ils sont pas arrivés là par hasard. Il y en a certains qui achètent leur volant, mais même quand tu regardes Stroll aujourd'hui, je suis désolé, notre ami. Jacques peut dire tout ce qu'il veut, c'est quand même pas un pimpin, quoi. Le gamin, il a beaucoup progressé.
C'est clair.
Et par moments, il a quand même des moments de brillance, quoi. Il a clairement du talent. Après, on aime le personnage, on n'aime pas ça, c'est un débat, mais bon, les mecs, en F1, c'est quand même pas des brandes, quoi. Donc, il y a un moment, il faut mettre les choses à plat. C'est juste que il fallait avoir des qualités que j'avais pas, et le seul truc qui m'a vraiment dérangé, c'est que j'avais pas besoin de passer et de souffrir de quelque part de l'humiliation, parce que t'es démonté sur la place publique devant toute la presse pour savoir que c'était pas pour moi. Si vous m'avez dit écoute, la voiture elle sera comme elle sera là, il faudra que tu la conduis, j'y serais pas allé. Ouais. Je savais très bien que ça marcherait pas, et pour être très honnête, la première séance d'essai à Barcelone je pourrais te la décrire comme hier. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à Claire, tu mens.
Waouh. D'accord.
Tu avais déjà senti.
C'était écrit. La façon dont ça se passait, c'était.
Alors que, alors qu'on rappelle, auparavant, tu avais été champion de F3000, hein, donc l'équivalent de la Formule 2 aujourd'hui. Tu as été donc quadruple champion en champ car. Enfin, tu avais un vrai gros palmarès absolument magnifique. Donc, rentrer et dire.
Mais encore une fois, j'ai des qualités, mais je connais aussi mes limites. Et à partir du moment où j'ai vu comment le système fonctionnait, c'était foutu, quoi.
Et est-ce que tu penses que justement, avec une autre écurie à un autre moment, ça aurait pu marcher différemment s'il y avait une autre méthode, une autre approche ?
Ça aurait pu être peut-être moins catastrophique. Quoi. C'est fort possible. Mais malgré tout, aujourd'hui, et comme je le disais, ça fait un moment que ça dure en F1. Et c'est pour ça que tu vois par moment des coéquipiers qui prennent le dessus sur d'autres. Il y a des évos qui arrivent sur les voitures et ça change complètement son comportement. Ouais. Des maps aéro comme ça où tu as 6 ou 8% de changement de centrage aéro sur la plage de vitesse, forcément, ça va avoir des grosses conséquences sur l'équipe de l'auto. Après, quand tu es dans une grosse équipe qui est capable de développer plusieurs solutions en même temps et que peut-être elle est un tout petit peu moins perfo, mais qu'ils savent que ça va aller beaucoup plus dans le sens de leur pilote, peut-être qu'ils vont faire ça sur une grosse équipe. Mais à côté de ça, si la simulation elle dit que ça va aller une demi-seconde plus vite avec la solution A qu'un des deux pilotes ne va pas aimer par rapport à 2 dixièmes plus vite sur la solution B qui va les aider au niveau de la perfo et de l'équilibre, je pense quand même que malgré tout, ils vont quand même se diriger vers la solution qui va aller 5 dixièmes plus vite. Donc, en F1, aujourd'hui, la course au développement qui est là depuis probablement plus d'une vingtaine d'années, elle pousse en fait le système dans ces derniers retranchements où chaque pilote doit vraiment s'adapter le plus possible à la voiture X à l'instant T. Et ça, c'est pas moi, tout simplement.
Alors, toi, tu roulais chez Toro Rosso, autrement dit AlphaTauri aujourd'hui, où on retrouve Yuki Tsunoda et Nyck de Vries. On a vu, alors après un superbe Grand Prix l'année dernière en remplacement de Nyck de Vries, et là, pour le coup, le Néerlandais, il est un petit peu en difficulté par rapport à Yuki Tsunoda. Je crois que c'est le seul, c'est un des rares coéquipiers, duo de coéquipiers, où c'est à chaque fois le même qui a pris l'ascendant. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à Nyck de Vries pour sortir là de cette dynamique qui a un petit peu. Il n'y a eu que 3 grands prix, hein, tu vas me dire, mais avec l'expérience, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner?
Non, parce que je ne connais pas, les tenants qui sont de la situation. Chaque situation est unique. Je pense que clairement, il n'est pas bien dans l'auto parce que c'est un jeune. Qui n'est plus tout à fait aussi jeune que ça, qui commence à avoir de la bouteille, qui a toujours tout gagné. C'est vrai que je suis, comme un petit peu tout le monde, un petit peu étonné de voir qu'il ne semble pas super à l'aise. Maintenant, ça met peut-être aussi un petit peu l'accent sur le fait que Batsuda, c'est pas non plus petit, que le gamin habite. Et que, voilà, il a peut-être aussi trouvé quelqu'un à qui parler. Mais oui, je pense que malgré tout, son semi-manque de compétitivité là, sur ce début de saison, il est surprenant. Je pense que tout le monde l'attendait au moins au niveau de. Mais non, je n'ai pas de conseils à lui donner parce que je ne sais pas ce qui se passe.
On parle d'endurance, Sébastien. Tu fais donc partie de cette équipe Cadillac, surprenante, assez redoutable depuis le début de la saison. Alors, toi, tu roules dans le championnat américain d'endurance, ce qu'on appelle l'IMSA, hein, pas dans le championnat du monde. Tu as fait quand même podium avec tes coéquipiers à Daytona, à la troisième place, à Sebring. Alors, Sebring, il y avait la course de championnat du monde qui était les 1000 miles de Sebring qui ont eu lieu le samedi. Et vous, en IMSA, vous avez roulé le dimanche sur 12 heures. Et je crois que ta voiture est un peu partie en fumée, mais les pare-feux étaient là. J'ai envie de dire que pour les 24 heures, je mets Toyota en favori, mais que Cadillac, pas loin derrière. Vous y allez pour gagner, clairement.
Je pense que quand tu fais partie d'un programme officiel, comme c'est le cas avec Cadillac, comme c'est le cas de beaucoup de programmes qui sont sortis là, cette année en hypercar, forcément, tout le monde veut y aller pour la gagne.
Mais il y en a peut-être quelques-uns qui sont plus crédibles que d'autres.
Ouais, je sais pas. Je pense que quand tu regardes les grosses boutiques qui sont impliquées quand même, que ce soit Cadillac, Porsche, US, Acura, BMW qui sera là l'année prochaine, l'arrivée d'Alpine, on a quand même des plateaux qui sont assez redoutables. Alors après, on a quand même vu aussi à Sebring une Toyota qui met tour à tout le monde. Alors bien sûr, il y a eu des petites boulettes, bien sûr, il y a eu des petites pénalités par-ci, par-là, un petit peu pour tout le monde, sauf pour Toyota qui a fait la course parfaite. Mais deux tours sur une course comme ça, ça montre quand même à quel point ils sont devant. Donc ouais, nous, clairement, l'objectif, c'est d'avoir un niveau de perfo qui nous permette de bénéficier de la moindre petite boulette de Toyota. Mais je pense que quand même, en étant réaliste, aujourd'hui, leur expérience de la catégorie et le niveau de développement de leur voiture, ils ont l'air
Tu as quand même fait de sacrées performances aux 24 heures du Mans.
Trois fois deuxième. Hein. Je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie. Hein, mais...
non, mais si, c'est bon, tu l'as fait deux
fois. Je suis désolé.
Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience-là et en quoi elles peuvent te servir de ces expériences-là et en quoi elles peuvent te servir pour l'avenir?
Bon, je pense que c'est une carrière globale et un niveau d'expérience global qui permet de puiser un peu dans tes ressources et d'essayer de sortir le meilleur des situations qui se présentent à toi. Donc, c'est pas mon expérience de faire trois fois le deuxième moment, mais c'est vrai que ce sera ma
16e
édition. Voilà, c'est une course forcément qui m'est très chère parce que je suis dans la Pro Rouge, pas beaucoup plus local. Mais d'un autre côté, c'est aussi une course qui a été un gros crève-cœur. Alors, bien sûr, on l'a gagné avec Ford en 2016. C'était une super histoire. C'était de faire partie de ce programme et d'apporter cette victoire avec Dirk et Joey et Chicken Sea Racing qui fait l'opérationnel de la Cadillac pour nous et de donner cette victoire à la famille Ford. Ce que ça représentait à la famille, c'était magique. Maintenant, c'est sûr que pour moi, une victoire, c'est une victoire générale. Et c'est défaut cruellement, comme elle fait défaut à Franck, comme elle fait défaut à Stéphane. Je dirais que la première année, en 2007, c'était une victoire de finir deuxième. C'était une victoire de finir tout court, parce que la voiture n'avait jamais fait une simule 24 heures sans casser quelque chose. 2009 et 2011... 2009, les positions sont figées à 4 heures du matin, alors qu'on était sur une autre planète au niveau perfo par rapport à la curseur.
C'est l'année des bielles en titane?
Non, ça c'est 2000, c'est 2010.
Ah ouais, pardon.
2010, je fais la pole, mais nous on s'est retrouvé avec un châssis en circulation qui était il y avait plus de 20 000 km, je crois, et c'est délaminé en cours, c'est Pedro est rentré, la chape était pas sympa à l'époque. Ça c'est un autre crève-cœur, mais bon, là au moins on n'a pas eu le temps d'y croire. 2011, on perd pourquoi 11 ou 13 secondes, je sais plus. Cette année-là c'était un peu différent parce qu'on était dominé en perfo par Audi pour la première fois depuis 2017. On la perd sportivement. Et 2009, ça reste le gros crève-cœur.
Alors, vous avez quand même un avantage chez Cadillac, c'est la force du nombre. Il y aura trois voitures chez Cadillac. Ça fait quand même quelques années qu'un constructeur n'est pas venu en débarquant avec trois autos. Toi, évidemment, tu vas t'occuper que de la tienne, mais quand même, ça laisse peut-être aussi la possibilité d'être un peu plus agressif avec les adversaires.
Ouais, je pense surtout que tu multiplies tes chances de victoire, forcément. Maintenant, pour gagner, il faut finir. Donc, je dirais que ça change pas fondamentalement les données du problème. Mais c'est sûr que avec des voitures qui sont vraiment encore assez récentes et qui peuvent quand même créer des points de faiblesse à certains moments, et sachant la cruauté du système au Mans, où c'est pas comme en IMSA, si t'as un petit problème, tu tombes à un tour, tu récupères ton tour et tu viens faire la bagarre à la dernière heure. Là, moindre petit incident de parcours, t'en perdu, tu le referas pas. Donc, après, j'espère juste que les autres, ils ont tous leurs petits problèmes aussi et que tout le monde se retrouve à égalité à la fin. Mais ça arrive jamais. Il y en a toujours un qui fait une course parfaite et c'est pour ça que c'est le vainqueur. Donc, oui, c'est un jeu bien différent que qu'on vit ça avec les États-Unis où je dirais la course est beaucoup plus vivante et moins prévisible quelque part. Donc, il faudra faire la course parfaite pour battre. Ça, c'est certain. Et en plus, il faudra le perfo pour aller les châtaigner, ce qui n'est pas gagné.
On passe à la F1, si tu veux bien. On va notamment parler le sujet qu'on voulait évoquer en ta compagnie, Sébastien Bourdais. C'est cette idée qui semble prendre un petit peu forme dans les paddocks et de la Formule 1 et de la MotoGP, c'est de faire un week-end commun donc au Grand Prix de Formule 1 et de MotoGP. Donc on pourrait très bien se retrouver avec un Max Verstappen et un Fabio Quartararo dans le même paddock un week-end. Julien, tu nous retraces un petit peu l'histoire, comment c'est sorti
C'est très simple. Ce plan-là. Tout part d'une déclaration de Carmelo Ezpeleta, qui est le patron du MotoGP. Qui, via une interview à Soy Motor, a dit « c'est quelque chose qui nous a traversé l'esprit, Stefano Domenicali et moi, donc Stefano Domenicali, le patron de la Formule 1, même si pour le moment cela ne peut pas être fait, nous continuons à y réfléchir. Pourquoi pour le moment cela ne peut pas être fait? Parce qu'il y a plusieurs problèmes, notamment des questions de sécurité, il y a plus d'exigences, enfin en tout cas des exigences différentes pour les pilotes MotoGP ». Mais c'est une idée qui fait son chemin, c'est une idée qui est toujours à l'étude, ça c'est important de le préciser, et puis c'est une idée qui plaît, notamment aux promoteurs, parce que derrière il peut y avoir des enjeux assez énormes en termes de sponsoring et financiers.
Moi j'aimerais bien avoir ton avis, Sébastien Bourdais, déjà en tant qu'amateur de sport mécanique, est-ce que tu regardes aussi les Grands Prix MotoGP, ou est-ce qu'il manque deux roues aux motos?
Non, je regarde les deux, donc moi ça change rien, mais qu'ils soient au même endroit ou pas sur le calendrier, l'idée pourrait être séduisante. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même deux, ce qu'ils appellent quand même deux features, quoi. Donc quelque part d'avoir deux événements comme ça principaux en même temps au même endroit, c'est difficile. Forcément, faudrait une grosse refonte du planning du week-end, aussi bien pour la F1 qui a quand même aussi ses courses de support que pour la MotoGP qui a le Moto 3 et le Moto 2. Donc, il n'y aura pas de la place pour tout le monde, ça c'est sûr. Un des rares circuits qui pourrait peut-être accommoder ça aussi, c'est peut-être Abu Dhabi, avec deux vrais paddocks séparés qui pourraient probablement accueillir les deux dans de bonnes conditions. Mais c'est vrai que ce serait aussi bien au niveau logistique qu'au niveau timing. Je pense que ce serait un gros défi. Par contre, l'idée est séduisante. Mais c'est vrai que la faisabilité, quand même.
Toi, ça te plaît bien.
Il est entre nous deux, finalement.
Ouais,
Sébastien,
ouais, c'est clair. Toi, ça te plaît bien, Julien.
Oui, l'idée me plaît bien parce que je pense que déjà, ça impliquerait quelque part un retour en arrière. Parce que faire Grand Prix Moto et Grand Prix Formule 1 sur un même week-end. Avec les courses sprint, j'ai du mal à voir comment ça peut être.
En fait,
possible.
Toi, ça te garantirait qu'il n'y ait pas de courses sprint.
Et j'avoue que l'idée qu'il n'y ait plus de courses sprint me plaît beaucoup. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses à gagner. Pourquoi pas nourrir l'intérêt des spectateurs de la MotoGP et inversement avec ceux de la Formule 1. Je pense qu'en termes de frais, de transport aussi, ça peut faciliter certaines choses. Effectivement, Sébastien évoquait la question des paddocks. Je pense que ça, pour le coup, c'est une vraie problématique. Ouais. Donc oui, et puis il y a aussi une idée qui me plaît beaucoup, c'est d'avoir autant de cerveaux au même endroit, notamment cerveaux du même groupe. On peut penser à Ducati qui fait partie du groupe Volkswagen, comme Audi, qui va arriver en Formule 1. Et je pense que ça peut faire émerger d'autres idées, des choses intéressantes au niveau technologique, même si je pense qu'effectivement, en termes de logistique et d'organisation, ça risque d'être compliqué à mettre en place.
Ouais. Côté logistique, il y a des gens dont c'est le métier qui font ça très,
oui,
très
ils
bien.
Arriveront à se débrouiller.
À Paris en 2024, en côté logistique, ça va être pas mal et je pense qu'ils vont réussir à s'en sortir. Moi, je t'avoue que je suis un petit peu dubitatif. Il y a un truc qui me fait dire que j'ai quand même un peu l'impression, tu sais, qu'on essaye de battre une mayonnaise juste comme ça. C'est qu'ils te parlent d'un circuit urbain. À Madrid, et un circuit urbain pour faire des courses de MotoGP quand tu sais que les motos déboulent à 330-350, excusez-moi, mais c'est pas crédible. Tu parlais de circuit à Abu Dhabi, je pense qu'un des seuls circuits qui pourrait, c'est aussi en Espagne, c'est la Catalogne, parce qu'il reçoit déjà la MotoGP et il reçoit aussi la Formule 1. Mais alors, l'idée d'aller faire un truc dans un site urbain, pour la moto, c'est pas jouable. Déjà qu'en voiture...
Bon, on n'a qu'à aller à Macao à ce moment-là.
Oui, ouais, malheureusement, c'est
déjà... Une F1 à Macao, ce serait assez impressionnant.
Ah ouais, c'est clair. Petite parenthèse d'ailleurs. T'as pas mal voyagé, toi. T'as fait quand même quelques courses assez exotiques. Je pense... La course la plus folle à laquelle t'es parti... Alors, 500 miles d'Indianapolis, là... je crois c'est pas totalement exotique, parce que quand on fait de l'IndyCar, c'est un passage obligé. Je pense à Bathurst, par exemple. Est-ce que c'est un des trucs les plus fous que t'es fait, ou il y a vraiment un truc où tu t'es dit « Wow !»
Non, le plus fou, c'est Macao.
Ah oui.
C'est Macao. C'est le flow de la piste en elle-même, les vitesses... Le fait que c'est un vrai circuit urbain, hein. Quand tu attaques la montagne, la route serpente entre deux murs, dans des S et autres, en fond de 4, là, c'est quand même, il faut y croire. C'est vraiment un gros morceau. Tu parles de circuit urbain, de circuit un peu icône du sport auto, je pense que c'est vraiment celui qui ressort. Après, c'est sûr, en routier, Bathurst, c'est exceptionnel.
Donc, il y a déjà ça, où là, je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous faire un truc un peu pour faire baver, pour tester un peu ? Moi, j'aimerais bien, hein, mais j'y crois pas trop. Il y a aussi un autre problème, c'est que régulièrement, les pilotes de MotoGP se plaignent que la gomme laissée par un autre manufacturier, en l'occurrence Dunlop en Moto2 et au Moto3, ça fausse un petit peu, ça détériore l'adhérence. Je ne sais pas comment ça se passerait en termes de
avec quoi. Avec du Pirelli.
Ouais. Puis surtout, ça en dépose beaucoup de la gomme sur la piste. Bon, après, on peut toujours imaginer qu'on nettoie la piste. Ça a été fait. J'aurais même dû commencer par là, d'ailleurs, parce qu'en plus, on va faire un petit cocorico. Mais ça a déjà été fait assez récemment. Alors, pas MotoGP et Formule 1, mais un week-end de compétition auto et moto avec le WTCR et le championnat d'endurance moto. C'est une épreuve qui a été organisée par Eurosport Events à l'époque, qui est devenue Discovery Events depuis. Et il fallait nettoyer la piste parce que il y a des dépôts de gomme qui sont quand même assez différents. Après, sur le reste, je me demande si c'est les mêmes personnes qu'on voit, si c'est le même public qu'on voit sur des Grands Prix de Formule 1 et de moto.
Mais ça, je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose, justement. Puisque ça permet de dire aux gens, regardez ce que fait la moto, regardez ce que fait la F1.
Oui, de faire montrer, venir un autre.
Et de leur montrer, plutôt que d'essayer de faire quelque chose de plus superficiel pour attirer d'autres gens. Moi, je trouve ça un petit peu plus naturel et je trouve ça plus intéressant. Après, pour revenir sur la question de la piste, on peut parler d'Austin, où les pilotes MotoGP se plaignent justement que l'asphalte bouge trop en raison du passage des Formule 1 sur ce même circuit. Donc ouais. Ça aussi, c'est des problématiques à prendre en compte. Et puis sur la visibilité, moi, il y a quelque chose que je trouve intéressant. On parlait des États-Unis, on sait que pour le MotoGP, c'est un petit peu plus compliqué aux États-Unis que pour la F1 en ce moment. Je pense que ça peut être bénéfique sur ce plan-là. Et puis, on peut prendre à l'opposé le marché asiatique, où pour le coup, pour la MotoGP, ça se passe très bien. Un petit peu moins pour la Formule 1. Donc voilà, je trouve qu'il y a des choses intéressantes à tirer. Et encore une fois, si ça peut permettre de retrouver un petit peu plus de traditionnel et moins de courses sprint et de choses un petit peu loufoques, moi, je trouve que c'est intéressant.
En tout cas, ils auraient...
Après, je t'arrête tout de suite, là. Le fait que la piste elle bouge à Austin, c'est pas la F1. C'est le fait qu'ils l'ont fait sur un site qui est complètement stabilisé, parce que c'était un site de recyclage slash swamp. marécage. Donc, c'est, si tu regardes les routes d'accès, t'as compris. Hein, ça a bougé de plus d'un mètre en hauteur et t'as des whoops tout autour des routes d'accès. Ils sont incapables de garder ce site.
Hein. Ils le refont tous les ans quasiment.
Là, c'est une absolue catastrophe.
C'est dommage parce que le circuit est quand même assez spectaculaire.
Ouais, voilà, moi perso, j'ai horreur de ces circuits artificiels où il n'y a pas de. Où tu as ces cordes qui sont hyper pointues, il y a relativement peu de virages qui sont naturels au niveau visuel, et puis surtout ce dernier secteur là où on a cet enchaînement d'épingles. Déjà, ce ne serait pas forcément super fun s'il y avait du grip, mais alors, comme en plus il n'y en a pas parce que l'enrobé est extrêmement. Mais arrêtez. T'as l'impression par moment que tu tirais plus vite en courant. Quoi. C'est absolument déprimant dans la voiture.
Bon, ben voilà.
J'ai fait des essais en bicar, c'était une course. C'était mais vraiment, vraiment pas fun. C'est vrai que perso, c'est CS dans le premier secteur pourrait être vraiment très fun, mais pas comme ça. Quoi. Pas avec de l'enrobé partout, pas avec des plots en béton qui te défoncent la voiture si jamais tu prends une petite virgule. Bah, je sais pas, il y a quelque chose, moi perso, qui a toujours tout changé au niveau visuel et au niveau de l'expérience du circuit s'il n'y avait pas de naturel.
Ouais.
Il y a quelque chose que j'ai du mal à verbaliser, mais c'est l'expérience derrière le volant, rien à voir.
Austin Rabillé pour l'hiver là.
Ouais, clairement. Bon, donc toi.
Non, mais c'est tous ces circuits qui ont été un petit peu sacrifiés. Hein. Il y en a quelques-uns. Même Spa que j'adore aujourd'hui, il y a un certain nombre de virages qui sont plus pareils. Quoi. Je veux dire, Pouhon avant d'essayer de rentrer dans le Pouhon au taquet, tu pensais à deux fois. Quoi. Bon bah maintenant, les gamins. C'est même plus un défi, c'est même plus un challenge. T'essayes à fond, et puis si ça passe pas, de toute façon, tu passes par-dessus l'astro et t'as 200 mètres de rampé, quoi. Donc, malheureusement, ça en a changé l'approche et la façon dont tu te développes toi en tant que pilote. En fait.
Ça a changé de métier, en fait.
Au lieu d'aller chercher les limites petit à petit et tout en sachant qu'à partir du moment où tu prends ce risque, si jamais tu te trompes et que tu vas au-dessus de la limite et que tu fais l'erreur, tu vas te retrouver dans le bac au mieux ou abîmer l'auto au pire, c'est pas la même chose que si c'est de toute façon on essaye à fond et puis si on prend une traque limite, on enlève un peu quoi. Donc ouais, c'est ce que je déplore le plus, c'est que malheureusement on a changé le sport et c'est pour ça que je suis plutôt très content d'entendre qu'il y a peut-être un espoir de revenir un peu en arrière. On l'a vu à certains virages, à certains circuits. On a fait dépenser des sommes colossales au circuit pour enlever les bacs à gravier. Normalement, on le demande. Ouais. C'est assez ironique, mais c'est, pour moi, c'est une très bonne chose.
Donc, on valide ou pas ce concept de super Grand Prix MotoGP F1 ? Ça te plaît, Seb ?
Moi, j'aime bien l'idée, je la vois pas arriver.
Non. Et toi, Julien ?
Pareil, j'aime beaucoup l'idée, mais je la vois pas arriver à court terme en tout cas.
Je crois qu'il parle de 2027 hein, pour éventuellement la première.
Ah bah ça va, ils se sont donné du temps. Hein.
Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'il faut renégocier tous les contrats parce ouais. Que forcément, il y a des questions de sponsoring qui va falloir essayer de mettre un petit peu adéquates. Le troisième sujet qu'on voulait évoquer dans les fous du volant aujourd'hui, c'est la possibilité de voir Lewis Hamilton débarquer au sein de la Scuderia Ferrari. Alors, est-ce que c'est juste un fantasme ou pas ? Julien, voilà, c'est pareil, on a le sentiment que c'est parti d'une petite phrase et puis que d'un seul coup, ça a fait boule de neige.
Alors, pour le coup, ça a toujours été un fantasme. On a l'impression que ça revient de tous les deux ans, à peu près. Là, ça a été relancé.
Le sentiment que c'est plus sérieux cette fois.
Oui, cette année, c'est un petit peu plus sérieux. D'abord parce que, pour la première fois, à la fois les pilotes et les dirigeants ont réagi à cette rumeur. C'est le cas de Toto Wolff, qui a notamment dit que si Hamilton venait à quitter Mercedes pour une autre écurie rivale, il lui en voudrait pas, notamment parce que la Mercedes n'est pas suffisamment compétitive.
Et la Ferrari encore moins, alors il n'y en voudrait pas.
On va y venir, mais Charles Leclerc, lui aussi, a été amené à réagir à cette déclaration où il a dit que c'était la première fois depuis qu'il était chez Ferrari qu'il y avait autant de rumeurs et que pour l'instant, il était en rouge et qu'il était hors de question qu'un échange avec Hamilton chez Mercedes soit d'actualité. Donc oui, c'est la première fois que ça se matérialise autant. Le fantasme, lui, a un petit peu toujours existé parce que Hamilton a été le meilleur pilote du monde et est l'un des meilleurs pilotes de tous les temps. Et que, quelque part, tous les grands pilotes, ou en tout cas une majorité de grands pilotes, finissent un moment ou un autre chez Ferrari. Souvenez-vous même des déclarations de Jean Todt avec la proposition qu'il avait faite à Ayrton Senna pour la saison 1995. Donc, toutes ces choses-là sont dans l'air. Et puis là, effectivement, il y a la négociation de contrat. Hamilton arrive en fin de contrat. La question de son avenir se pose parce que Mercedes n'est pas compétitif, parce que Mercedes ne l'écoute plus ou ne l'écoute plus assez à son goût. Et donc, finalement, oui, Hamilton a une décision à prendre. Maintenant, c'est la question de Ferrari. Tu l'as abordé. Pourquoi quitter Mercedes pour une Ferrari qui, finalement, n'est pas beaucoup plus compétitive que la Mercedes?
Est-ce que tu y crois, toi, Sébastien Bourdais, à cette possibilité que Lewis Hamilton aille chez Ferrari?
Je pense que tout est possible, très franchement. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit forcément plus simple chez Ferrari que chez Mercedes, comme tu le disais. Je pense que la logique voudrait que forcément il essaye de rentrer chez Red Bull. Ça, je ne le vois pas arriver non plus. Entendu parler de ces rumeurs aussi,
ouais.
ça a été discuté. Mais je pense que ils savent très bien ce qui se passerait chez Red Bull si les deux se retrouvaient. Je pense que l'échange Rosberg-Hamilton en comparaison de l'échange Verstappen-Hamilton, je pense que ce serait de la rigolade.
Ouais.
Donc je pense qu'ils vont rester très loin de ça. Ils n'ont pas besoin de Lewis pour gagner avec Max. Voilà, je pense que forcément, Lewis, c'est un battant, c'est un gagnant, et il ne sera jamais satisfait d'avoir une tête dans un programme qui ne permet pas de s'imposer. Donc, c'est normal maintenant. Le cirque de la F1, il est comme il est, et très, très propice à débattre un certain nombre de rumeurs et de possibilités ou d'hypothèses. Donc, voilà, mais après. Je pense que Lewis chez Ferrari, ça pourrait être très intéressant. Mais je ne suis pas sûr que ce serait forcément mieux que chez Mercedes. Il y a bien un moment chez Mercedes où ça va réagir. Ils ont rempilé avec leur concept. Ils vont peut-être mettre le doigt sur quelque chose. On avait vraiment l'impression qu'en fin de saison, ils commençaient réellement à comprendre certaines choses. Peut-être qu'il y avait aussi quelque chose au niveau du moteur. Maintenant, Peut-être que le Honda est vraiment à ce moment-là aussi
au-dessus.
Fort.
Ouais.
C'est toujours difficile de savoir exactement la part aéro, la part moteur, quand on n'a pas de comparaison. Donc voilà, mais je pense que le plus gros problème que je vois aujourd'hui, c'est peut-être le retrait progressif. Les ressources peut-être un petit peu moins abondantes que du côté Mercedes, avec un petit désengagement, si j'ai pu comprendre quand même, à la faveur de Ineos et autres. Maintenant, il y a aussi le fait que le COSCAP ne peut pas réagir aussi vite, à un moment où il manque de ressources financières. Et ça, c'est aussi, c'est quelque part une bonne chose que les coûts en F1 soient retombés. Maintenant, c'est aussi une mauvaise chose, dans le sens où si ton concept est mal né, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau changement de réglementation et un nouveau concept, c'est plus difficile de réagir. Donc ça, c'est le petit bémol du COSCAP.
Pour en revenir à cette histoire de Lewis Hamilton chez Ferrari, moi, en fait, ce qui m'a étonné, c'est que quelque part, on le mettait directement en balance avec le départ de Charles Leclerc. Or, moi, si je suis Ferrari, c'est plutôt Carlos Sainz que je cherche à, à faire remplacer par Lewis Hamilton. Là, ça peut commencer quand même à avoir une sacrée paire de pilotes. C'est pas que Carlos Sainz est moins bon forcément que Charles Leclerc, mais en termes de reconnaissance,
il est moins à l'aise.
Ouais. On sent bien quand même que il est moins à son aise. Après, est-ce que ça peut être un pari vraiment si risqué que ça pour Lewis Hamilton? En tout cas, il a tout intérêt, Lewis Hamilton et son entourage, à faire parler de cela, parce que pour le coup, ça met vraiment la pression sur Mercedes pour l'écouter dans les directions à prendre sur l'évolution de la voiture. On sent bien qu'il y a tout un jeu en ce moment chez Mercedes entre George Russell et Lewis Hamilton, où logiquement, peut-être que chez Mercedes, on se dit, Lewis Hamilton, c'est vrai qu'il a un palmarès exceptionnel, mais il commence à avoir quelques années à son compteur. Il faut peut-être écouter un peu plus George. Et là, d'un seul coup, si tu risques de perdre Lewis, bon, attendez, Lewis, reviens à la réunion, s'il te plaît.
Et puis, Russell fait tout pour mettre le jeu de son côté aussi, logique, parce qu'il fait tout très bien. Il a encore été exemplaire à Melbourne, même si ça s'est mal fini pour lui. Même en termes de communication, je trouve qu'il est très bon. Et puis en qualification, il est meilleur qu'Hamilton depuis le début de la saison. Donc ça, c'est un argument en moins pour lui, pour le coup.
Est-ce que ça peut faire partie aussi du jeu d'un pilote de mettre un petit peu la pression sur son propre employeur, Seb?
Ah oui, je pense que Lewis a été très très fort toute sa carrière. Il a toujours poussé très très fort pour que on lui donne les moyens de s'exprimer. Et c'est normal, je veux dire, c'est quelqu'un exceptionnel qui mérite d'être dans l'équipement qui lui permet de s'imposer. Maintenant, c'est sûr que ces deux générations qui s'affrontent entre George et Lewis, j'ai cru comprendre que au niveau de l'implication, au niveau du simulateur et autres, George est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus dans l'air du temps par rapport à tout ça.
Tout à fait.
Et puis, je pense que, très franchement, de dire Mercedes écoute pas Lewis et autres, c'est impossible pour un pilote aujourd'hui d'aiguiller une équipe vers une solution par rapport à un concept de voiture. C'est tellement complexe.
Ouais.
Le pilote, ce qu'il peut dire, c'est ce qu'il aimerait que la voiture elle fasse et son ressenti par rapport à l'option X, Y, Z. Mais c'est pas lui qui va décider et qui va savoir mieux que armée d'ingé, de simulation et de soufflerie, comment régler le problème qui est clair qu'aujourd'hui, ils ont un problème de corrélation. Les chiffres leur disent que la voiture, elle devrait être d'une certaine façon et produire tel résultat, et ce n'est pas le cas. Donc, je pense que c'est un petit peu utopique de croire que Lewis à la solution et qu'il n'écoute pas et que c'est pas comme ça que ça se passe.
Ouais. Vous imaginez, n'empêche, le buzz d'un seul coup, Lewis ouais. Hamilton qui débarque en rouge dans un...
Ah oui, non, mais je pense que ce serait exceptionnel.
Pour la Formule 1, c'est incroyable.
Mais bon, ça a été aussi essayé par un certain nombre de pilotes avant lui. Le seul qui est arrivé, c'est quand même Michael.
Ouais.
C'est pas si simple que ça.
Rappelons quand même deux choses.
Il ne faut pas enlever à Charles le fait que lui aussi est quand même particulièrement exceptionnel et que tout Charles qu'il est, en ce moment, c'est quand même compliqué. Quoi. Ils ont fait quelque chose au début de la nouvelle ère, ils ont perdu le terrain et ça a l'air compliqué de regagner l'avantage qu'il semblait avoir, ou en tout cas le niveau de perfo qu'il semblait avoir par rapport à la concurrence. C'est un écart qui s'est creusé et ça semble compliqué pour revenir maintenant. Tout est en mouvement en permanence. Il y a beaucoup de cerveaux très brillants. Je suis sûr que Durand, Piquet, est bien en place avec Fred Vasseur pour trouver des solutions et mettre les équipes en place pour trouver ces solutions.
J'allais te demander, toi, tu le connais, Fred Vasseur, qu'est-ce que tu penses de...
Des années de Formule 3 chez ASM, quand moi j'étais à la filière. Mais... course que tu commentais déjà.
Ben oui, merci de me rajeunir.
Ouais, bah, tu sais, hein, on est dans le même panier là. Hein.
C'est ça, exactement. le fait que ce soit Fred Vasseur qui soit devenu le patron de la Scuderia, toi, quand ça a été annoncé, tu t'es dit, tiens, ça, c'est un garçon qui va avoir la poigne. Ça a été quoi ton sentiment par rapport à sa nomination?
Bah, super content pour lui. Et puis, en même temps, énorme défi. Je pense qu'il sait très bien la tâche qui l'attend. C'est un lieu impitoyable d'être à la tête de la Scuderia. Je pense qu'il n'y a pas plus cutthroat que ça. Voilà, il va falloir que les choses se passent bien si ça ne se tourne pas un peu en cauchemar, parce qu'on est responsable de tout, du bien, du moyen et du mauvais, quoi. Donc, on a vu, je pense que Binotto était quelqu'un de très intelligent et était probablement très loin d'être un bon leader. Maintenant, chez Ferrari, si tu ne gagnes pas, tu ne dures pas.
Ouais.
Je crois que c'est très, très, très bien mis en tour.
Bon.
Tout Jean Todt qu'il était, il y a eu des moments très difficiles.
On a un peu tendance à l'oublier, mais toi, t'étais dans le game à ce moment-là. On a oublié les moments terribles qu'a traversé Jean Todt avec Michael Schumacher, d'ailleurs, chez Ferrari.
Ah, ça n'a pas gagné tout de suite. Hein.
Ouais.
Et pour rester en place, il a fallu se défendre, il a fallu très très fort pour rester en place et convaincre que c'était la bonne méthode et le bon système et que ça allait finir par tout.
On termine avec Lewis Hamilton chez Ferrari. Une probabilité de 1 à 10 de voir un jour Lewis Hamilton chez Ferrari. Bon, moi, je vais vous dire franchement, je mets 2 sur 10.
Ouais, je suis dans ces eaux-là aussi, moi. 2,5, allez.
2,5. Seb, tu mets combien?
Ah, je sais pas, moi, je pense que c'est du 50-50.
Ah ouais, carrément. Ah ouais, ok. Cool. Bah, écoute, on verra si
ça dépendra du niveau de perfo de la Mercedes au fur et à mesure de l'année.
Ouais.
Et de la Ferrari.
Aussi, accessoirement, on rappelle que Charles Leclerc est sous contrat donc
jusqu'en 2024,
tout comme Carlos Sainz. Ouais.
Mais on a aussi vu l'année dernière que oui, les échéances de contrat, c'était pas
ça peut se négocier, ça, la fin des contrats. Ouais. Ça dépend du nombre de zéros qu'on met à la fin du chèque. Bah merci Seb d'avoir été avec nous tout au long des Fous du Volant. Vrai plaisir de partager presque une heure ensemble, hein, mine de rien.
Ouais, 2 minutes en retard, c'est ça, c'est une demi-heure de pénalité.
Exactement, c'est ça. Merci beaucoup, Sébastien. Prochaine épreuve en IMSA, pour toi, c'est quand?
C'est Long Beach, ce week-end.
Pas mal. Eh ben, on regardera ça et on te dit le mot de Cambronne en bon français de ce côté de l'Atlantique avant de te voir débarquer au mois de juin pour aller chercher le grand trophée qui attend, dont l'emplacement, il doit y avoir un emplacement chez toi pour le grand trophée.
Oui, on lui trouvera une place. Bon, au niveau du planning, c'est Long Beach, 15 jours après Spa, 15 jours après Laguna Seca, et après on rentre en France et c'est objectif Le Mans.
Eh ben, on te dit merde, voilà. À bientôt. Non. Merci beaucoup, Sébastien.
Salut.
Salut.
Et à vous, il nous reste à vous dire que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous pourrez retrouver les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Julien, on n'a plus rien à se dire. Alors,
on coupe le contact. Ciao.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.